cerise et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le merle
bonsoir, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Galère pour ce nouveau dossier mensuel qui est consacré à une interview de l'historienne Annie Lacroix-Rie que vous avez déjà entendue sur cette antenne et que nous accueillons à nouveau pour présenter un ouvrage à venir mais qui est achevé, qui n'a plus qu'à aller à l'imprimerie, sur impérialisme et syndicalisme. Elle en dira beaucoup plus que moi là-dessus et beaucoup plus savamment, mais je remercie donc Annie Lacroix-Rie pour son interview, je remercie Sidi qui se trouve avec moi dans la cabine, et puis je voulais dire pourquoi on s'intéresse ici à Marseille particulièrement à cet impérialisme syndical, parce que il faut savoir, et vous entendrez prononcer son nom plusieurs fois au cours de l'interview par Annie Lacroix-Rie, qu'un agent de l'impérialisme états-unien chargé des questions syndicales, un nommé Irving Brown, a sévi très largement à Marseille. Pourquoi Marseille ? Parce qu'il s'agissait d'abord d'assurer l'arrivée du matériel du plan Marshall dans ce grand port français, et puis il s'agissait de lutter contre l'influence communiste qui était particulièrement forte comme elle l'avait été dans la résistance, et je peux dire, j'ose, je risque l'affirmation, le Gaston de Fer a été un des meilleurs élèves, si ce n'est le meilleur élève d'Irving Brown. Il a assuré son pouvoir à la fois en contrôlant par le syndicat Force Ouvrière son quotidien Le Provençal, devenu aujourd'hui La Provence, et il a assuré par Force Ouvrière le contrôle du personnel municipal qui dure encore. C'est dire que ce qui s'est passé, et qu'Annie Lacroix-Rie va nous décrire dans les années 45-47, a laissé des traces durables dans cette vie. FO est encore au pouvoir puisque le maire qui a succédé à Gaston de Fer, Jean-Claude Gaudin, avait été instruit à la même école et qu'il avait même reçu, je le signale pour tous les auditeurs de France, la médaille d'honneur du syndicat Force Ouvrière. Les cas sont assez rares dans l'histoire politique française pour qu'ils soient soulignés. Donc voilà, laissons la parole à Annie Lacroix-Rie, mais n'oublions pas ce contexte, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, cet impérialisme syndical américain, a eu des suites qui sont encore visibles dans notre cité aujourd'hui. Merci de votre attention et bonne écoute. Bonjour, c'est toujours un plaisir de rencontrer Annie Lacroix-Rie, que ce soit en période d'activité ou de vacances, mais en fait, je sais que pour tous les retraités, la différence entre les deux états est petite. Et donc, de toute façon, Annie Lacroix-Rie, où qu'elle soit, quelle que soit la période, travaille. Et elle a toujours un sujet qui est la préparation d'un nouveau livre sur un nouveau centre d'intérêt concernant une des périodes sur lesquelles elle a les plus amples connaissances et auxquelles elle a consacré le plus grand nombre de recherches. Cette période, c'est la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et je crois, tu vas nous le dire, que tu te préoccupes en particulier en ce moment de ce qui est arrivé dans le champ syndical de nos pays au sortir de la guerre.
Voilà où on se trouve depuis de nombreuses décennies en France, confronté à un problème quand même sérieux en la matière, parce que on a, ma foi, des informations sur le syndicalisme au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont connus en tout cas, qui sont éventuellement publics, consultables par le public depuis des décennies. En gros, entre les années 1960 et les années 1970 aux États-Unis, beaucoup de recherches ont eu lieu, je dirais de deux côtés différents. Du côté de la partie corruptrice américaine, c'est-à-dire du côté du côté approbateur de la corruption et du contrôle des syndicats, puisque il y a eu toute une série d'historiens qui trouvait que les scissions organisées par les États-Unis dans le mouvement ouvrier européen avaient été une excellente chose, et qui, il faut le dire, donnait beaucoup de détails. Et puis, l'autre courant, qui était un courant historiographique issu de contestations profondes dans les années 50-60, ce qu'on a appelé le courant révisionniste, qui, dès les années 70, avait donné aussi beaucoup d'informations. Il faut bien dire d'ailleurs que du point de vue du contenu, elles concordaient, même si les conclusions qu'on en tirait étaient diamétralement opposées. Alors, il se trouve que ça correspond à la période où je préparais ma thèse d'État, puisque je l'ai soutenue en 80 et que donc je l'ai faite dans la décennie 70, et que à ce moment-là, on avait déjà le moyen, je dirais, de faire le point sur quelque chose qui, somme toute, s'était déjà produit. Et évidemment, là, qui mettait en cause les États-Unis, parce que, il faut bien le dire, il y avait une partie de cette mainmise sur les syndicats qui ressortissait directement à la responsabilité des États-Unis, sachant que il y avait quand même une inconnue qui reste une inconnue à cause de la fermeture des archives patronales, c'est que on savait déjà beaucoup sur ce qu'avaient fait les États-Unis et qui était d'ailleurs public dès 1947-1948, qui était dans le débat public à ce moment-là. C'est la contribution des États-Unis. Mais il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on connaît toujours mal, qu'on soupçonne, sur quoi évidemment on a de fortes présomptions, mais sur quoi on n'a pas de travaux précis, parce que c'est impossible, parce que les archives sont fermées, c'est la responsabilité du patronat. Et je dois dire d'ailleurs que cette question, elle a un intérêt général, ancien, et un intérêt particulier qui fait pénétrer d'emblée, d'ailleurs, dans la situation syndicale, dans la situation générale et syndicale actuelle. Le caractère ancien, c'est que le contrôle patronal du syndicalisme, c'est quand même quelque chose qui s'est mis en œuvre, je dirais, aussi vite, aussi tôt que le syndicalisme ouvrier, c'est-à-dire en même temps que entre les 18e et 19e siècles, le syndicalisme ouvrier s'est constitué. Alors, les penseurs socialistes y ont beaucoup réfléchi, pas seulement parce qu'ils se sont posés la question de savoir si le syndicalisme devait s'occuper de politique, mais parce qu'ils ont été confrontés au mouvement, à la division du mouvement ouvrier, et ils ont été confrontés à une situation je l'ai découvert bien après avoir travaillé sur le syndicalisme contemporain. Ils ont été confrontés à une situation qui est au fond celle de la division du mouvement ouvrier entre réformisme et mouvement révolutionnaire. Et ça, c'est vraiment une question qui se pose clairement à partir du 19e siècle. Et je voudrais d'ailleurs dire aux auditeurs à quel point ils auraient intérêt à lire ou à relire le très remarquable ouvrage de Friedrich Engels de Prime Jeunesse, qui est l'ouvrage de 1845 sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre, non seulement parce que c'est intéressant indépendamment même de l'existence du syndicalisme sur le statut des ouvriers britanniques au XIXe siècle, et d'ailleurs, je dois dire, si on doit parler de l'actualité, que ça fait un heureux contrepoint, soit une confirmation, soit un heureux contrepoint à une émission qui a eu les avantages d'Arte et qui a dû rejoindre ses archives, ça n'est pas comme toutes les émissions, qui était une étude très alléchante sur l'histoire des ouvriers, le retour du monde ouvrier au monde ouvrier, qui a été organisée, dirigée par Xavier Vignat, et qui a été sur la première partie, c'est-à-dire le 18e siècle, extrêmement intéressante parce qu'elle s'alimentait à des travaux basés sur une grosse source archivistique sur les débuts de la classe ouvrière anglaise au XVIIIe siècle. Malheureusement, on ne pouvait pas trouver de choses intéressantes sur le syndicalisme dans les épisodes suivants, parce que les épisodes suivants avaient complètement abandonné la question des rapports entre ouvriers et patrons. Dans les trois émissions suivantes, il n'était plus question de patrons. En fait, il était surtout question d'une approche de la classe ouvrière très sentimentale, de la souffrance ouvrière individuelle, de la manière de s'en sortir en essayant de duper le patron d'une manière ou d'une autre. Et puis on arrivait à l'apothéose, puisque finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, la seule difficulté qu'a rencontrée la classe ouvrière internationale, et notamment européenne, c'était de se battre contre la sphère d'influence soviétique, où les ouvriers avaient été très maltraités, où leur grève avait été interdite, et étant supposé ou étant affirmé que dans nos démocraties occidentales, le droit de grève, l'exercice de la grève était tout à fait licite. Alors, mon collègue, puisqu'il s'agit d'un collègue historien, oui, n'avait pas dû s'informer sur les conditions de la répression syndicale qui avait refleuri, pour ne citer que l'exemple de la France, avec beaucoup d'éclat à partir de 1947-1948, oui, dans des conditions qui sont très éclairantes sur la liberté d'exercice du droit de grève à l'époque et au-delà. Tout ça pour dire que l'histoire de la classe ouvrière, c'est l'histoire du syndicalisme, c'est très vite l'histoire du syndicalisme, et que au bout dans le siècle suivant la naissance de la classe ouvrière, j'allais dire qu'il y a presque une classe ouvrière pure au XVIIIe siècle, parce que c'est le pays roi du capitalisme, c'est le pays qui a le capitalisme le plus pur dans sa première phase, le mouvement ouvrier se voit confronté à quelque chose de très important et sur quoi finalement nous avons peu d'informations. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les conséquences de la non-ouverture des archives patronales. C'est que dans l'histoire du mouvement ouvrier, qu'elle soit politique ou syndicale, il y a deux forces très déséquilibrées. Il y a la classe ouvrière elle-même, mais la classe ouvrière, elle est comme tous les salariés, elle est en situation de très forte dépendance, elle dépend de celui qui fournit le travail, pour le salaire, pour les conditions de vie, etc. Et on parle souvent d'histoire du mouvement ouvrier, mais parler d'histoire du mouvement ouvrier sans parler de cette puissance patronale, c'est évidemment un gros trou. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur Engels. Engels, quand il écrit l'histoire de la classe ouvrière, l'histoire de la classe laborieuse en Angleterre, et c'est d'ailleurs très intéressant sur les erreurs d'appréciation que peuvent faire de grands révolutionnaires, est persuadé, parce que on est déjà au cœur de la grande crise, la première crise de type capitaliste, qui est encore d'ailleurs une crise d'ancien régime, une crise agricole, mais qui est déjà une crise capitaliste, la crise de la spéculation, notamment sur le chemin de fer, de la rail, ce qu'on appelait la railway mania, la folie des chemins de fer. Et cette crise, les penseurs socialistes, et notamment les plus radicaux, pensent qu'elle va déboucher sur la révolution socialiste. C'est-à-dire que Engels, dans cet ouvrage, est persuadé que dans la période qui va venir, le capitalisme va mourir, qui va être remplacé par un système d'appropriation collective. C'est-à-dire qu'il considère que le mouvement travailliste, qu'on appelle le labor, et qui se dessine à partir de ce qu'on a appelé le mouvement chartiste, qui se transforme, le mouvement qui a connu un succès extraordinaire dans les années 1830, il est persuadé que ces militants ouvriers ne rêvent que de révolution et que les circonstances de la crise vont permettre ces transformations profondes. Et puis, je vais passer sur les décennies, en 1895, parce que le mouvement ouvrier dans l'ensemble de l'Europe capitaliste développée commence à affronter des problèmes nouveaux, qui sont précisément, enfin, un élément nouveau du problème des rapports entre ouvriers et patrons, le mouvement socialiste, aussi extrêmement divisé, se trouve confronté à une situation nouvelle, c'est-à-dire qu'il commence à être très visiblement divisé entre ceux qui se disent que, ma foi, ce système, bon, il n'est pas satisfaisant, mais que finalement on peut faire avec, on peut l'arranger, on peut le réformer, et que pour ce, d'ailleurs, il va suffire de se battre pour le droit de vote, de sorte que, avec les élections, en ayant la majorité, le mouvement ouvrier disposera du moyen de transformer la société. Et puis, un courant qui continue à penser avec Engels, avec Marx, enfin Marx est décédé, mais il a de la descendance, qui continue à penser que le système capitaliste est un système qui introduit des contradictions, des antagonismes tels entre le salaire et le profit qu'on ne peut pas faire affaire ensemble. Et c'est un moment où Engels, entre autres, parce que vraiment la décennie 1890 est essentielle, fait une préface à l'édition allemande de l'ouvrage, qui s'appelle Préface à l'édition allemande de la situation de la classe laborieuse en Angleterre. Voilà. Et je sollicite les auditeurs qui peuvent se procurer en ligne la très remarquable traduction des éditions sociales de 1960 ou 1961, qui a une très ample introduction par celui qui a été un historien marxiste, en tout cas pendant un certain temps, et qui est le grand Hobsbawm. Il a fait une analyse à la fois de l'ouvrage initial et de la préface, qui fait réfléchir sur une situation qui est somme toute très proche de la nôtre. Or, que dit Engels en 1895 ? Engels dit la chose suivante, voilà, il fait une autocritique, il dit voilà, j'ai pensé que dans l'enthousiasme de la jeunesse, que le capitalisme était agonisant, je me suis trompé. J'ai pensé que le mouvement chartiste était en voie de se tourner vers la transformation révolutionnaire, je me suis trompé. Et il fait l'analyse qu'une partie très importante des dirigeants de la classe ouvrière ont été conquis, séduits par les grands patrons qui pratiquent la trique mais qui pratiquent aussi la séduction. Et que, comme il le dit, au lieu de s'opposer à eux, et ben ma foi, ils ne se sont plus opposés, ils sont devenus complices et ils ont œuvré ensemble à rendre les autres plus raisonnables. Ça a amené évidemment d'ailleurs une division sociologique plus forte parce que les dirigeants du mouvement ouvrier étaient issus des métiers très qualifiés, des métiers de la première industrialisation souvent, et qui faisaient contraste avec la masse des nouveaux ouvriers non qualifiés. Et il explique d'ailleurs comment ces bons apôtres qui disent que tout s'est amélioré ne prennent pas en compte la vie de l'ensemble des masses ouvrières. Et au fond, il explique les choses auxquelles, par exemple, le mouvement ouvrier français sera confronté en 1899, c'est-à-dire faut-il se mobiliser pour la participation ministérielle, est-ce que faire venir les socialistes aux affaires gouvernementales, ça change les choses fondamentalement, ou est-ce que ça corrompt les ministres issus de la classe ouvrière sans changer le sort de la masse de la classe ouvrière. Et ce qu'Engels explique, et que reprendra remarquablement Lénine, dans les mêmes termes d'ailleurs à certains égards, notamment dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, mais évidemment dans bien d'autres éléments, parce que je dirais qu'un cheval de bataille, et c'est bien logique, entre les années 1890 et, je dirais, pratiquement sa mort, hein, des chevaux de bataille de Lénine, ça a été la division du mouvement ouvrier et l'importance de son courant réformiste qui avait abandonné le combat de classe. C'est cette idée que il existe au sein de la classe ouvrière des dirigeants que l'influence patronale, la corruption patronale, peut transformer en porte-parole, non pas de leur camp officiel, mais du camp patronal. C'est une question à laquelle on est confronté, somme toute, clairement, depuis plus d'un siècle, et qui est une question, je dirais, au cœur du syndicalisme, hein, c'est-à-dire, c'est toute l'histoire de la CGT qui est là, finalement, résumée, c'est-à-dire, officiellement, un mouvement qui se bat pour la transformation socialiste, dont les principes sont ceux de l'abolition du capitalisme, et puis dont la réelle, le réel développement ne va pas tout à fait dans ce sens, puisqu'on se retrouve en 1914 avec un mouvement ouvrier qui est acclamé partout sur le plan international, soit politique, soit syndical, puisqu'il y a une internationale politique, une seconde internationale depuis 1889, et il y a une internationale syndicale qui ont clamé qu'on allait profiter de la conjoncture pour se débarrasser chacun du capitalisme, et puis on débouche en 1914 sur un quasi-consensus pour aller à la boucherie dans les conditions qu'on sait. Ces problèmes sont les mêmes aujourd'hui, avec une petite différence, enfin avec une différence sensible, et c'est sur cette différence sensible, je dirais, que peut le mieux porter la recherche. C'est que on a au XIXe siècle des impérialistes qui sont en contact les uns avec les autres, mais finalement, dans le cadre desquels il existe un mouvement national, qui soit politique, syndical, etc., qui est d'abord national. C'est-à-dire qu'il y a un patronat, des ouvriers qui se battent ou qui ne se battent pas contre leur patronat. Tout ça, d'ailleurs, est en voie de transformation parce que on entre dans la nouvelle période qui n'est pas celle du capitalisme montré par la naissance de la classe ouvrière ou la naissance du capitalisme en Angleterre, mais où l'expansion du capital fait que on ne peut plus, le capitalisme ne peut plus se contenter de son marché, il explose dans ses limites nationales et que il se met à essaimer partout. C'est la période dite de l'impérialisme, à partir en gros des années 1880-1890, qui se traduit par la conquête coloniale, qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on nous sépare du reste en oubliant que c'est un pan essentiel justement de cet impérialisme et de cette expansion du capital en dehors de ses frontières, parce qu'il cherche des conditions nouvelles d'exploitation et des conditions susceptibles d'aggraver l'exploitation. Et donc, finalement, le mouvement ouvrier des années 90-14, il est confronté, Lénine n'est pas tout seul, il est confronté à toutes les caractéristiques qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Alors, on ne le sait pas parce que on a perdu la culture historique nécessaire et qu'on nous casse l'histoire comme un plaisir. Mais en fait, on a évidemment intérêt à connaître tout ça très bien avant d'aborder cette période, comme mon introduction a été longue, qu'on est supposé aborder aujourd'hui, qui est celle, non pas de la Première Guerre mondiale et de ses lendemains, mais de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y a une nouvelle caractéristique à partir du moment où se déploie cette expansion tous azimuts, en Afrique, en Asie, partout, chaque pays, chaque grand capitalisme cherchant à obtenir le maximum de profit et à développer considérablement son marché, non seulement son marché de marchandises, mais son marché de capitaux, on entre dans une période où le capitalisme est national, certes, mais où cette internationalisation du capital, ce qu'on nous appelle aujourd'hui cette mondialisation, en suggérant que la mondialisation est nouvelle, a des conséquences directes sur le mouvement ouvrier. Et je voudrais dire, parce qu'il faut rétablir évidemment, quand on est en situation de capacité ou d'impuissance historique, il faut rétablir les valeurs relatives. Qu'on ne puisse pas travailler aujourd'hui sérieusement sur le poids patronal dans chacun des pays, et notamment d'ailleurs en France, ça ne fait pas que le patronat national ne demeure pas un facteur essentiel, évidemment, de la division du mouvement ouvrier, de ses échecs, etc. Mais, à partir de 1890-1914, le niveau de progression de l'impérialisme a fait que, compte tenu des avances relatives, de la naissance tardive du capitalisme dans certains pays et d'un rythme de développement d'ailleurs beaucoup plus élevé comme le capitalisme américain ou le capitalisme allemand ou d'ailleurs le capitalisme japonais, on se trouve confronté à une situation où dans le syndicalisme il n'existe plus seulement le patron national mais il existe le patron international. Voilà. Et le déséquilibre de la recherche historique, je dis bien le déséquilibre parce que moi si j'avais pu j'aurais fait l'histoire, la même histoire avec le patronat national. Je ne pouvais pas, je n'avais pas d'archives. Bon, où j'avais des bouts d'archives, j'en ai eu, c'est vrai, parce que il m'est arrivé de travailler, par exemple, pour les années 30. J'ai eu accès à des archives patronales. Ça m'a permis de faire le livre qui s'appelle « Dominique à Vichy ». Et j'ai pu constater ce qu'avait été l'attitude du mouvement, enfin du patronat, du grand patronat, son influence sur la putréfaction, sur ce que Lénine appelle la putréfaction, qui n'est pas seulement un terme polémique. Il veut dire que entre le mouvement sain où les porteurs d'un camp, les porte-paroles d'un camp défendent ce camp et le moment où les porte-paroles d'un camp défendent un autre camp que celui qu'ils reconnaissent publiquement, il y a une situation de pourriture, hein, voilà, où on dit où on est, où on ne le dit pas, et il y a une dégradation absolument incontestable lorsque on ne joue plus France-Jeu. Et ce qui se passe en 1914, avant 1914, depuis 1914, c'est que arrive une autre dimension, c'est que dans les contacts entre impérialismes, il y a les gros et il y a les plus petits. Et plus l'impérialisme est gros, évidemment, plus il exerce, plus il est puissant, plus il exerce d'influence, non seulement bien sûr, mais ça je dirais que c'est vrai pour n'importe quel patronat national, sur sa propre classe ouvrière, mais aussi sur la classe ouvrière étrangère. Alors, il faut le savoir, parce qu'il faut bien comprendre que les questions que j'aborde après la Deuxième Guerre mondiale, et qui vont faire l'objet d'une réédition très approfondie d'un ouvrage qui portait sur les scissions syndicales et les impérialismes dominants entre la fin, l'avant Deuxième Guerre mondiale et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Ce travail, c'est un travail, voilà, il faut que le travail soit réparti entre les chercheurs, c'est un travail qu'on peut commencer en 1918. C'est-à-dire que les questions que je pose, notamment la question de l'influence américaine sur le mouvement ouvrier international, c'est une question qui est posée dès la Première Guerre mondiale et dès les lendemains de la Première Guerre mondiale, qu'on ne connaît pas en France, parce que, et là, à ma connaissance, était surtout, il y a peut-être d'autres chercheurs, mais elle a été étudiée par un historien qui s'appelle Martin Fine, et qui a montré comment, financé par son État, financé par ses patrons, le syndicalisme raisonnable américain, quand je dis raisonnable, c'est plus que raisonnable, c'est presque pire que ce que raconte Engels sur ses travaillistes en putréfaction, sur ce qu'il appelle l'aristocratie ouvrière. On est déjà dans un phénomène d'aristocratie ouvrière qui est considérable, c'est-à-dire que l'AFL de Samuel Gompers, c'est un syndicalisme pourri à la tête, dont les liens sont étroits avec l'État américain, avec le très grand patronat américain, le patronat des trusts, qui repose sur une fraction qualifiée de la classe ouvrière, qui est absolument, non seulement indifférente, mais en général hostile à la masse des ouvriers, c'est-à-dire cette masse des ouvriers dont Engels disait ils sont pas mieux, ils vont pas mieux en 1895 qu'en 1845, mais ces leaders syndicaux et politiques ne s'en rendent pas compte. Et donc on est dans le même cas de figure, mais c'est-à-dire que l'AFL, au nom de l'État américain, au nom du président Wilson et de son programme d'expansion illimitée, en liaison avec les grands groupes américains, ce qu'on appelle les trusts, vient faire une tentative d'OPA sur le syndicalisme français, et notamment d'ailleurs auprès de la CGT, auprès de Jouot, puisque Jouot est déjà secrétaire général de la CGT, il l'est depuis 1909. Ancien anarchiste qui s'est, fort bien adapté à la transformation réformiste, puisque cet anarchiste qui prétendait supprimer l'État a été un serviteur de l'État de première grandeur pendant la Première Guerre mondiale. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que, non seulement c'est pas grand chose, d'abord les travaux de Martin Fine n'ont jamais été traduits.
Bien sûr.
Ce qui est une caractéristique générale, hein, voilà, on est tranquille, bon. Mais ça met l'accent sur quelque chose qui est très intéressant après 1914, et d'ailleurs qui montre bien à quel point le syndicalisme colle à tout le reste de la réalité. Il se trouve que l'Europe impérialiste a pris des coups sévères avec la Première Guerre mondiale, que la France et l'Angleterre, grandes victorieuses apparentes, sont en fait très affaiblis par la guerre, que le capitalisme américain devient le maître de l'Europe, ce qu'en général on ne sait pas du tout. Hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de 45. Oui, hein, oui, j'ai des collègues, je pense à Gérard Bossuet, qui est un historien européen, européiste, là, de première grandeur, hein, un petit Monet, un Monet au petit pied, un grand turiféraire de Monet, etc., qui, puisque je l'ai connu dans les années 80, en séminaire, qui avait commencé l'étude du mouvement ouvrier, même pas seulement du mouvement ouvrier, parce qu'il n'était pas spécialiste du mouvement ouvrier, mais qui avait commencé son étude en 1945 et qui ignorait qu'il existait quelque chose avant 1945, en particulier la puissance américaine. Parce que la puissance américaine, l'impérialisme dominant américain, il est dominant de manière écrasante à partir de la Première Guerre mondiale, et grâce à la Première Guerre mondiale. Alors, pourquoi est-ce que ça échoue? Ça n'échoue pas d'ailleurs totalement. Mais ça échoue quand même en partie, pour les mêmes raisons d'ailleurs qui font que le programme de Wilson, qui est le programme des trusts américains, hein, c'est-à-dire d'expansion sans limite de l'impérialisme américain. Libre circulation sur les fleuves mondiaux, donc dont les fleuves européens, liberté des mers, tout ça n'empêchant pas un remarquable protectionnisme qu'on ne peut quand même pas imputer à Donald Trump, tant c'est un instrument systématique de l'impérialisme américain depuis la fin du 19e siècle. Et donc, ça échoue partiellement pour les mêmes raisons qui font que les États-Unis ne peuvent pas réaliser leur programme de conquête de l'Europe autant qu'ils le souhaitaient. Ça avance. Ils ont un rôle déterminant sur le sort de l'Europe pendant l'entre-deux-guerres. Il y a toute une série d'ignares, mais d'ignares contents d'eux, qui vous expliquent aujourd'hui que les États-Unis sont isolationnistes dans l'entre-deux-guerres. Ils ne sont pas isolationnistes, ils sont comme ils sont aujourd'hui. C'est eux qui sont les maîtres de l'ensemble des règlements financiers de l'après-première guerre mondiale, je dis bien, c'est-à-dire de la question des réparations qui passent à la poubelle, et d'une part, et des dettes inter-État qui ne passent pas à la poubelle, et leur seul isolationnisme, c'est le même isolationnisme qu'aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part, évidemment, de fermer la frontière à ce qui est gênant. Ça, ils ont eu un peu de mal ces dernières décennies, vu l'évolution du capitalisme. Enfin, ça reste pertinent. Et puis, surtout, ils se trouvent dans une situation telle que leur expansion ne passe pas par une intervention militaire systématique, pour la bonne et simple raison qu'ils ne peuvent pas consentir d'intervention militaire autre que quand la guerre est terminée et qu'il s'agit de prendre les dépouilles. Hein, c'est-à-dire, ils n'ont pas d'armée permanente, ils ont des armées permanentes qui leur servent à l'époque à contrôler l'ensemble de l'Amérique latine et, avec les forces policières, écraser le mouvement ouvrier. Bon. Mais quand vous n'avez pas d'ennemis aux frontières, quand vous n'êtes jamais menacé, les États-Unis ne l'ont jamais été, vous n'avez pas besoin de grandes armées permanentes. L'impérialisme américain, il va de pair avec ce qu'on appelle la stratégie périphérique. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'énormes armées. S'il y a un conflit général, eh bien, je participe financièrement au conflit général et je me pointe militairement, voilà, à la fin. Ce qui s'est passé en 1918, c'est ce qui s'est passé en 1944. Pas plus, pas moins. Et ça met d'ailleurs l'accent, je dirais, sur l'absurdité des campagnes qui nous sont dispensées depuis quelques décennies, je dirais avec de plus en plus d'audace, selon lesquelles les États-Unis ont libéré l'Europe en 1945, ils n'ont rien libéré du tout. Ils se sont pointés en Europe exactement dans les mêmes conditions où ils se sont pointés en mars 1918, je dis bien, il n'y a pas d'erreur, en mars 1918, puisqu'ils sont entrés officiellement dans la guerre par une déclaration d'avril 1917, mais les premiers soldats sont arrivés en mars 1918. En mars 1918, le sort de la guerre, ça faisait belle lurette qu'il était jeté. Et d'ailleurs, dans la mesure où le capitalisme britannique et le capitalisme français avaient perdu beaucoup de dents, mais pas toutes, ils n'ont pas pu obtenir, Wilson n'a pas pu obtenir tout ce qu'il voulait, voilà, tout ce qu'a pu obtenir, non pas Roosevelt qui était mort, mais son successeur, enfin il s'était passé des tas de choses avant la mort de Roosevelt, mais son successeur en mai 1945. Ce qui vaut pour tout, vaut pour le syndicalisme. C'est-à-dire que l'affaire ratée en 1918 avec Gompers, Jouot et tous les syndicalistes qui allaient reformer la Fédération syndicale internationale, c'est au fond les questions qui sont posées après 1945. C'est-à-dire, quand les États-Unis, et c'est ça qu'on connaît de l'histoire du syndicalisme, en sachant que on sait bien que le patronat a joué un rôle énorme dans l'évolution du syndicalisme ouvrier, mais on ne le perçoit pas, tandis que on a les instruments de connaissance, on a les instruments archivistiques qui permettent de connaître avec précision l'ampleur de ce qu'on peut appeler finalement la pieuvre américaine à partir de 1944-45, mais si on entre dans une étude sérieuse et je dirais nationale, on se rend bien compte que tout ne date pas de 1945. Par exemple, hein, la maîtrise des bases scandinaves, ça peut commencer en 1941. Et donc, à partir de 1945, les États-Unis sont le grand vainqueur de la guerre. Je rappelle quand même, je l'ai dit à beaucoup d'émissions, sans doute parce que c'est une citation que je trouve tellement intelligente que elle mérite quand même d'être connue, elle ne l'est pas assez. Je rappelle que quand le Blitzkrieg s'effondre dans la première quinzaine qui suit l'attaque Barbarossa, c'est-à-dire dans la quinzaine qui suit le 22 juin 1941, un des principaux généraux français, celui d'ailleurs qui a aimablement ouvert nos frontières aux Allemands puisqu'il contrôlait le secteur de Sedan, Hunziker, qui est à l'époque ministre de la guerre, envoie mi-juillet, c'est pas lui qui l'a rédigé mais ça n'a pas d'importance, une lettre à Pétain et un certain nombre de ses pairs généraux dans laquelle il dit que les Allemands vont perdre parce qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à une résistance aussi farouche des Soviétiques, que si ça dure 2 mois, ils sont déjà mal, que si ça dure 3 mois, ils sont morts. Mais surtout, après avoir fait un petit développement sur la fin du Blitzkrieg, le très long développement qui suit, c'est, dans ces conditions, les États-Unis, qui ont été le principal vainqueur de la Première Guerre mondiale, seront le vainqueur incontestable de la deuxième avec un niveau de puissance tel que, dit-il, je le cite, pendant 50 ans, tout le monde devra se plier à leur volonté. Ça a duré plus de 50 ans, donc Hunziker a même été, je dirais, pessimiste sur les capacités de l'impérialisme américain. Voilà, on pensait que ce serait 50 ans, ben, ça fait plus de 50 ans que ça dure.
Une question, Annie, tu parlais d'archives patronales. Dans mon idée, dans l'idée générale, les archives, c'est les États qui les ouvrent, en disant vous pouvez accéder ici et là et tout. Les archives patronales, est-ce qu'il y a des règles d'ouverture?
Non, il n'y en a aucune.
Voilà, aucune. Non. Le patronat, c'est
c'est-à-dire que, par exemple, moi, les extras, d'abord, elles sont souvent privées. Il peut y avoir des organismes patronaux très importants qui ont des archives, qui les ouvrent ou qui ne les ouvrent pas. Il se trouve que moi j'ai eu la chance quand j'ai préparé Dominique Avichy de passer plusieurs mois aux archives de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont d'ailleurs un responsable pendant longtemps qui s'appelait Joly et que j'ai analysé d'ailleurs dans Dominique Avichy, qui était un Chinard, Cagoulard, etc., dont ce responsable a fait l'usage qu'il voulait. Par exemple, il a liquidé pratiquement toutes les archives coloniales. Voilà. Et un responsable des archives, il y a une petite vingtaine d'années, qui était d'ailleurs très sympathique, avec lequel j'avais eu des échanges, même pas une vingtaine d'années, parce que j'ai fait ça en 2007-2008, avait marqué, beaucoup d'audace, archives disparues pour des raisons idéologiques. idéologiques, je veux dire. C'est-à-dire qu'il avait liquidé complètement le fonds colonial. Mais il reste des bijoux, comme ça. Et par exemple, moi j'ai pu faire l'histoire du mouvement ouvrier français, et en particulier de l'achat patronal du syndicalisme CGT par le patronat français, avec ses archives qui sont absolument fabuleuses, puisque on y trouve en particulier compte rendu des négociations entre Léon Blum et les patrons en mai-juin 36. Et c'est sur cette base d'ailleurs que j'ai fait des articles qui, pour l'heure, je dirais, sont voués à une connaissance ténue. Enfin, ils figurent quand même sur mon site, donc ils sont en accès libre. Ça s'appelle Léon Blum aimait-il la détestait-il la finance. On en avait parlé d'ailleurs quand ils étaient sortis, et où je montre comment finalement en juin, mai-juin 1936, et Léon Blum, qui était ces dernières années l'objet de documentaires absolument dithyrambiques dans lesquels on expliquait que il avait créé les congés payés, que c'était le bienfaiteur qu'on ne remercierait jamais assez de la classe ouvrière française, qui lui avait rendu la vie et le sourire, comment il avait négocié avec les patrons l'échec le plus rapide possible du mouvement et la liquidation du mouvement de défense, et comment lui-même, avec non pas le deuxième ou le troisième Front Populaire, le premier gouvernement de Front Populaire a pris toutes les mesures pour sabrer ce qui avait fait la force du mouvement, c'est-à-dire la force des unitaires, la capacité d'entraînement des unitaires qui avait réussi, confronté au très grand mécontentement de la classe ouvrière, à entraîner la classe ouvrière dans les plus grandes grèves historiques de l'histoire de la France à cette date. C'est très impressionnant, c'est-à-dire que là on mesure ce que signifierait l'ouverture des archives patronales, dont on peut penser que elle ne sera possible si elles ne sont pas détruites. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi elles seraient totalement détruites. Ce ne sera possible, je dirais, que dans une société où il n'y aura plus de grandes entreprises.
Il faut un coup d'État. Hein?
Voilà, il faudrait une révolution pour que le statut de ces...
Ça, c'est avoir la compréhension que le patronat dit à vous, bon, il faut lâcher ça, ça on va payer, mais il faut qu'ils se remettent au travail, ça suffit.
Ah ben, c'est pas compliqué. Il faut d'abord savoir, alors que officiellement, ils ont passé leur temps à hurler, à hurler contre Blum et à être très injurieux, parce qu'en plus, à l'époque, ils étaient ouvertement antisémites. Aujourd'hui, ils sont très philosémites, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Ce sont les patrons qui sont venus tirer Blum par la manche, parce qu'il faut avoir lu ce que j'ai fait, moi, l'extraordinaire Assemblée Générale des patrons nationaux, puisque ça se passe à Paris, c'est la réunion c'est l'assemblée générale de tous les groupes équivalents, c'est-à-dire des chambres de commerce qui s'appelaient à l'époque chambres de commerce et pas chambres de commerce et d'industrie, qui sont réunies à Paris et qui analysent le mouvement de mai-juin. C'est hallucinant. C'est-à-dire que là, on comprend ce que c'est qu'un mouvement de masse et on comprend de quelle puissance dispose le patronat, puisque le patronat sait à ce moment-là que grâce au Parti Socialiste, grâce à la partie du mouvement syndical contrôlée par le Parti Socialiste, je dis bien contrôlée par le Parti Socialiste, l'alliance étant aussi organique et aussi étroite et aussi intime qu'entre les unitaires et le Parti Communiste, hein. Parce que ça, c'est quelque chose dont les gens n'ont pas du tout l'idée. Hein. Ah ben non, la CGT, parce que on a l'idée de la CGT d'après-guerre, c'est-à-dire de la CGT de Frachon, de la CGT unitaire communiste. Ah ben non, voilà un syndicat qui n'était pas politique. Mais ça, il faut le dire, la CGT réformiste est une CGT monocolore socialiste. Ils ont tous les dirigeants, leur carte à la SFIO. Quand ils ne l'ont pas, ils sont anarchistes et ils font alliance. Ils sont trotskistes, mais ils font alliance. Ça, c'est à partir des années 30. Mais Jouot est membre du Parti Socialiste, personne ne le sait, mais Jouot, il a sa carte du Parti Socialiste, depuis des temps immémoriaux. Donc là, quand on a un minimum d'archives patronales, les choses sautent aux yeux, je dirais, aussi violemment que quand on a en main les archives américaines sur le poids américain, sur le syndicalisme français.
Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples de ce que tu appelles les archives patronales ?
Alors, par exemple, ces archives de la Chambre de commerce, elles sont classées par catégorie.
Alors oui,
rapport avec l'Allemagne, dossier colonial disparu, assemblée générale, réunion de un niveau plus petit, conseil de direction. Il n'y avait pas tout, mais il y en avait énormément. C'est-à-dire que j'ai pu consulter toutes les assemblées générales des années de l'entre-deux-guerres, parce que celles des années 30 étaient disponibles. Je les ai exploitées d'ailleurs dans le Dominique à Vichy. C'est stupéfiant, c'est-à-dire qu'on y trouve tout, on y voit bien entendu, et encore, c'est une partie très expurgée, hein, c'est évident, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toute une série d'éléments, je dirais que c'est exactement, alors tu dis les archives patronales, il y en a d'autres par exemple, moi j'ai consulté pendant très longtemps, globalement j'ai bien dû y passer un an, et même probablement davantage, les archives disponibles de la Banque de France. Les archives disponibles de la Banque de France, c'est par exemple les archives du Conseil Général, c'est-à-dire les archives de la réunion hebdomadaire du groupement de direction, je dirais le plus large, parce que ça n'est pas le Conseil, c'est pas le gouvernement de la Banque de France. Hein. On aurait encore beaucoup mieux si on avait le compte-rendu des réunions du gouvernement, parce que la réunion du Conseil Général, c'est le gouverneur, le vice-gouverneur, l'ensemble de l'appareil de direction, mais les décisions sont en fait déjà prises. Hein. Mm-hmm. Bon. Mais elles sont communiquées quand même. C'est-à-dire que, par exemple, quand on connaît les archives de la Banque de France, on comprend très bien ce qui se passe à la banque et ailleurs, mais on comprend très bien la tactique patronale pour casser la grève de 1938. Mm. Hein, bah, avec pas grand chose, parce que finalement il vaut mieux aller après dans tel ou tel, parce que même chose, les archives de la Banque de France, il n'y a pas que ces énormes livres, c'est très impressionnant, d'ailleurs je ne sais même pas quel est le format, ça fait une table, c'est des gigantesques livres reliés de velours vert. Mais gigantesque, hein, ça doit être grand. Enfin là, j'ai pas pris les centimètres. Alors, on n'a pas l'image. Oui, c'est vraiment énorme. Et il y a d'autres choses. Il y a par exemple les dossiers de l'or espagnol, de l'or belge, de l'or tchécoslovaque. Il y a tout. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mes ouvrages sur les années 30. C'est fascinant. C'est-à-dire que on a, au niveau élevé du grand patronat, une information qui est, je dirais, la même, sinon anticipée, que l'information du plus haut niveau de l'État. C'est la même. Ils ont les mêmes services de renseignement, ils savent tout sur tout. Tout sur tout. C'est proprement stupéfiant.
Donc, après, on ose nous dire conspirationnisme.
Ah, mais je dirais d'ailleurs, je l'ai toujours dit, ils ne font que ça. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps, ce qui est bien logique. Ils défendent leur pouvoir. Or, ils sont confrontés à une situation, je pense à cet égard, que c'est de pire en pire, telle qu'ils contrôlent de plus en plus de moyens face à une population qui est de plus en plus pressurée, appauvrie, etc., parce que c'est quand même la loi de développement du capitalisme, hein, bien que ça ait fait rigoler beaucoup de bons esprits, mais la loi de paupérisation absolue ou relative, tout de même, je dirais que nous vivons dans une période qui, par bonheur, pourrait nous la faire comprendre, mais compte tenu de notre niveau d'information ou de désinformation, ne peut même pas être plus comprise que quand il y avait, comme disait un dirigeant de FO, du grain à moudre. Donc on comprend là ce que c'est que la puissance patronale. Et on comprend, bon, parce que moi j'ai la chance de connaître non seulement par des archives patronales, peu d'archives patronales qui sont ouvertes, parce que les archives de la Banque de France, c'est les archives patronales de la Banque de France, c'est une banque privée.
Oui, jusqu'à
ce en 36, théoriquement, elle connaît des réformes, mais des réformes complètement bidons, dont j'ai donné d'ailleurs, dont j'ai démontré le caractère purement cosmétique dans Le choix de la défaite et dans Dominique Avici, et par conséquent, on est quand même au cœur d'archives patronales. Donc, c'est vrai qu'il nous manque des pans entiers. En particulier, c'est clair, il nous manque le détail de la manière dont le mouvement ouvrier a été conquis. Ça, c'est clair. Mais on a de la chance, et on imagine ce que pourrait être la richesse d'une appréhension nationale du phénomène, comme les États-Unis était en mesure de mettre la main sur le monde, comme la main mise sur le monde, elle passait par le contrôle de la classe ouvrière, elle passait par le contrôle de tout, mais elle passait par le contrôle de la classe ouvrière. Parce que on ne peut... J'avais montré ça dans ma thèse, hein. Quand j'ai fait ma thèse, bon, c'est la préparation, c'est les années 70, donc ça, c'est vieux de 40 ans. Mais l'avantage des archives, même si on les a pas toutes, c'est que on peut les avoir consultées il y a 40 ans, ça reste les archives, hein. Les archives de la période, c'est les archives de la période. Or, qu'est-ce que montrent ces archives? Elles montrent évidemment des phénomènes de contrôle, on peut trouver mieux, on peut trouver plus divers, etc. Mais quand on a compris le mécanisme, ben ma foi, on a compris le mécanisme, et on a la chance, même si on n'a pas beaucoup d'archives patronales, d'avoir des archives par ailleurs tellement précises que on peut en partie compenser le déficit. D'ailleurs, j'ai tort de dire que on ne peut pas aborder le problème du contrôle patronal. Je pense qu'il y a un biais qui doit être en partie disponible aujourd'hui. C'est vrai que, parce que j'ai travaillé sur autre chose, moi je n'ai pas utilisé, que malheureusement mes collègues n'utilisent pas. Je pense qu'on peut compenser avec des archives policières que je n'ai pas vues ou pas pu voir quand je travaillais sur ces questions, et je pense qu'on peut compenser. Parce que quand je vois ce qu'on peut compenser pour les années 30, en matière de... alors qu'il y a déficit d'archives patronales avec des archives policières, je me dis que oui, il est clair qu'on peut tenter cette étude. On ne peut pas la tenter aujourd'hui en termes universitaires. Il se trouve que moi, je me suis orienté surtout vers le travail international en matière de syndicalisme. Bon, j'ai travaillé beaucoup sur les questions intérieures dans d'autres domaines, mais j'ai surtout travaillé sur le contrôle des États-Unis. Et là, pour le contrôle des États-Unis, on a beaucoup de sources directes, qui ne sont pas d'ailleurs, il faut le dire, c'est intéressant, qui ne sont jamais des sources patronales. Parce que tous les historiens qui ont travaillé sur les scissions, sur le contrôle américain, de tous les historiens, je n'en connais aucun qui ait eu accès aux archives patronales. Aucun. Ils ont donc tous travaillé sur la base d'archives syndicales et d'archives d'État, parce que dans une situation de symbiose, d'osmose entre l'État américain et le très grand patronat, on a, avec les décisions de l'État, l'écho des relations avec tel ou tel groupe, et que par conséquent, on peut reconstituer, mais on ne les a pas non plus. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être induit les auditeurs en erreur. On pourrait, un peu sur le modèle de ce qu'ont fait des journalistes il y a quelques années, Colomba de France Inter et un certain nombre d'autres, quand ils ont fait ce gros ouvrage sur l'histoire du patronat français, Ils ont trouvé des sources. Alors, ils n'ont pas tellement travaillé sur les archives policières, mais sur la base des archives policières, eux-mêmes auraient pu trouver beaucoup plus. Ils donnent beaucoup de choses, mais ils donnent des choses qui manquent de précision, mais les archives policières, que moi, pour le coup, j'ai beaucoup utilisé pour les années 30, elles montrent ce que fait le patronat, je dirais, en tout domaine, c'est-à-dire comment il contrôle les syndicats, comment il a pris barre sur les syndicalistes. Ça, on le sait par les archives policières. Donc, c'est vrai qu'il y a un déficit dans mon explication du départ, c'est que les archives policières, elles permettent en partie de compenser. Parce qu'il faut savoir que les archives policières, elles abordent tous les aspects de la vie politique et syndicale, tous. Elles font la surveillance des syndicats, donc elles sont en mesure, les policiers sont en mesure de dire qui paie qui.
C'est vrai,
mais oui. Bien sûr. Et par exemple, la scission, parce que moi j'ai fait une histoire assez précise de ce qu'on ne peut pas appeler la scission de 39, d'ailleurs ce n'est pas une scission, c'est les confédérés de Jouhaud qui ont fiché à la porte les communistes, les unitaires de l'ancienne CGTU regroupés en CGT en 1936. Mais avec les seules archives policières, on sait ce qu'ont fait l'État et le patronat, même si on n'a pas les archives patronales. On sait, alors j'ai donné les archives policières, il y a les archives F7, c'est-à-dire les archives de la Sûreté, d'abord générale puis nationale, à partir de 34 ça s'appelle la Sûreté nationale, les archives du SDEC, moi je les ai pas consultées directement, mais par exemple j'en ai consulté une partie fabuleuse, qui s'appelait d'ailleurs documents réservés aux archives du quai. Ce qui est logique, puisque le SDEC, il donne des informations extérieures. On ne peut pas imaginer ce qu'on trouve comme archives syndicales aux archives du SDEC. C'est hallucinant.
Ah oui.
Ah, mais hallucinant. C'est-à-dire qu'on sait ce que fait Brown, on sait ce que fait Lovestone, on sait tout. Quasiment tout. Bon, alors on ne sait pas tout. On sait tout ce que font ensemble l'État et les syndicalistes stipendiés nationaux. Mais on ne connaît pas le détail, évidemment, entreprise par entreprise. Donc il faut le dire d'autant plus d'ailleurs que c'est même dramatique, je dirais, que tout ce qui est source de connaissances est déprécié depuis quelques décennies d'une manière absolument scandaleuse, parce qu'il y a eu une grande campagne, non seulement contre les archives, qui entassaient des tas de choses positivistes, sans aucun intérêt, mais il y a eu une grande campagne de critique des archives policières, sur le thème, d'ailleurs développé par Jean-Marc Berlière, qui s'est fait une spécialité d'ouvrage montrant que le Parti communiste est un abominable criminel non patriote. Mais Berlière, par exemple, a fait, lui, une histoire qu'il appelle l'histoire de la police sous l'occupation, avec exclusivement des mémoires de défense des flics entre 44 et 47, rien d'autre, alors qu'il avait le moyen, il n'est que de me lire, de voir par les archives policières, par les archives administratives, par exemple les archives F1A, que ça ne s'était pas du tout passé comme ça. Et alors, ça a donné lieu, de la part d'historiens de ce type, à une véritable campagne de désinformation et de calomnie contre les archives policières, au motif que les archives policières seraient des archives de basse police, sans aucun intérêt, mal informées. Elles ne sont pas plus mal informées que les archives militaires, les archives diplomatiques, les archives administratives. Toutes les archives sont bien informées.
Est-ce qu'on peut dire que les archives policières permettent d'avoir le résultat de ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire de ce qu'il y aurait dans les archives patronales?
En partie. Je te donne un exemple. J'ai donné déjà quelques exemples. Un exemple qui est tout à fait passionnant, tout à fait explicite, et que j'ai exploité notamment pour le dossier Renault, parce que je me suis beaucoup occupé du dossier Renault entre les années 30 et les années 40. Il y a un fonds Renault aux archives de la préfecture de police qui est fabuleux. Mais fabuleux. Pourquoi si bien informé? Parce que la collaboration entre la police et le patronat est une collaboration quotidienne. Ce que j'ai montré d'ailleurs dans les années 30, ce que j'ai montré dans les années 40, en y ajoutant quelque chose, c'est que à cette mortelle collaboration s'est ajoutée la super mortelle collaboration avec la police allemande. Mais qu'est-ce qui se passe avant-guerre? Qu'est-ce qui se passe depuis que la classe ouvrière existe? La première chose que fait un patron, quand il a pas mal d'ouvriers, c'est de surveiller, de faire surveiller ses ouvriers.
Évidemment.
Hein? S'ils ne le volent pas, s'ils n'ont pas l'intention de fiche le bazar en faisant la grève, voilà. Donc, je dirais que c'est ce qui existe depuis que les usines existent. Avoir les renseignements policiers pour pouvoir ficher à la porte le vilain petit canard. Le dossier Renault, c'est une démonstration extraordinaire. J'en donne un exemple. Hein. On s'éloigne un peu de notre sujet, mais on y reviendra. Normalement, on est toujours très proche de notre sujet, d'ailleurs. Il se trouve que on a, dans ce dossier des archives de la préfecture de police, évidemment, toute une série de rapports du commissariat de Boulogne-Billancourt. Quand on regarde les dossiers, c'est sûrement pas exhaustif, hein, mais c'est quand même, ça fait des gros dossiers, hein. Quand on a ce dossier, on a tout, par exemple, sur la surveillance, ou beaucoup sur la surveillance policière des années 30. On sait quels sont les rapports entre le patron et les organismes de police. On sait par exemple que le I2, délégué à la lutte de classe et directeur général de Renault, est en contact permanent avec le préfet de la Seine et le préfet de police. On sait, mais il y a des tas de détails là-dessus dans Le choix de la défaite et dans Dominique Avici, on sait comment se déroule une grève ou se déroule une non-grève. Par exemple, on a la preuve que j'ai apportée que la grève de 1938 n'est en fait pas une grève et que légalement la police n'a aucun moyen d'intervenir. Parce que la grève a commencé elle a duré 2 heures et il n'y a théoriquement d'intervention de la police que s'il y a sortie hors de l'usine. C'est-à-dire incursion dans le domaine public. Là, la police peut intervenir. Elle ne peut pas intervenir dans l'usine. Hein? Il y a les flics. Il y a les flics du patron qui peuvent intervenir dans l'usine, mais pas la police nationale. Hein? Pas la police municipale non plus. Et donc, on a une lettre du commissaire qui explique comment c'est embarrassant, parce que, la grève commençait, ils sont rentrés, c'est tout à fait illégal, on a les lettres de l'EI2 au préfet, on a quasiment tout. Tout sur la répression. Moi je rigole toujours quand je vois un article du Canard, je trouve ça rigolo parce que j'y retrouve mes archives, qui explique que Ikea a fliqué. Appliquer ses salariés. Mais je veux dire, ils fliquent leurs salariés avec les flics d'entreprise et avec les flics. C'est-à-dire que c'est même une collaboration tellement intime que les policiers sont tenus quotidiennement au courant de ce qui se passe dans l'usine au point que, bon, Renault a 35 000 ouvriers dans les années 30. Il y en a 30 000 sous occupation. Et pourquoi on ne sait? Et même moins que ça, je ne sais pas si à un moment on ne descend pas très au-dessous de ça. Parce qu'un jour, je cite un document, mais c'est un document tout à fait significatif, c'est-à-dire qu'il y a un gars, dans un atelier, il y a eu des tracts distribués, Et il y a un gars qui est un, voilà, qu'on a trouvé qu'un tract, ou je sais pas quoi, ou qui a reçu un tract, il est interrogé, et évidemment, on lui demande de dénoncer ses camarades. Et on l'emmène de l'usine, on l'emmène au commissariat de Boulogne-Billancourt, et on lui sort les fiches. Et ce jour-là, le commissariat à l'effectif de l'époque, c'est 42, à l'effectif de l'époque, et là on est autour de 20 000. Voilà. Donc, on a la preuve que cette collaboration, et dans toutes les villes et partout, et pas seulement chez Renault ou chez Peugeot, hein, je veux dire dans les petites boîtes, partout. Alors, on imagine ce que ça a pu donner, évidemment, quand les Allemands sont arrivés par là-dessus. C'est-à-dire que la collaboration nationale, patronale, policière, s'est jointe celle des Allemands. Bon, sachant ce que j'ai montré dans divers ouvrages, et notamment dans les deux derniers, que, et non, j'avais montré aussi dans Industriel et banquier, au chapitre 10, où j'évoquais l'aspect de classe de l'action patronale, on sait, par ce type d'archives, ce que font les patrons avec les policiers. On sait que, bien entendu, il n'est pas question que les Allemands puissent faire grand-chose sans la police française, hein. Bon, je rappelle quand même, la police allemande, c'est 3000 personnes, hein. Donc, la police allemande, c'est rien sans les dizaines de milliers de policiers mis au service de l'occupant. Sachant que moi, j'ai montré dans les années 30, et là encore, grâce aux archives policières, que la collaboration policière est antérieure à la guerre. On le voit très bien, d'ailleurs, dans l'ouvrage que je suis en train de relire, là, sur le contrôle syndical, et notamment le contrôle syndical par les États-Unis, on a des archives de type policier ou des archives syndicales qui montrent comment ce type de collaboration policière, il existe dans les années 45, 47, etc. Et il est clair, ce que je n'ai pas fait, il est clair que si on avait une possibilité aujourd'hui d'histoire sociale qui ne ressemble pas à l'histoire sociale de Xavier Ivignat dans les documentaires d'Arte, qui considère que les luttes de classe, c'est entre les soviets et leurs ouvriers, entre les communistes hongrois et leurs ouvriers, et les communistes allemands et leurs ouvriers, on saurait exactement le détail de ce qui est la répression patronale et policière de 47, de 48, des années suivantes, etc. Donc il faut bien comprendre que si on ne sait pas, c'est bien sûr en partie à cause de la responsabilité patronale, mais finalement, j'ai eu tort au départ, une responsabilité patronale qui peut quand même être court-circuitée par la consultation d'archives policières, même s'il y a d'énormes soustractions et destructions d'archives policières, hein. Pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'il est interdit de faire cette histoire en France. Et que si on fait cette histoire en France, on a une carrière pourrie, et on n'a pas de carrière du tout, ce qui est un cas fréquent, ce qui est un cas très fréquent. Moi, j'ai connu plusieurs chercheurs qui avaient fini par... Et encore, ceux-là, ils avaient eu bien de la chance, hein, et ils avaient l'agrégation, voilà, un bon cursus, ils se sont retrouvés profs de prépa, mais de gens qui ont renoncé à une carrière universitaire, et ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date des années 90, donc ne parlons pas d'aujourd'hui. Donc on pourrait faire cette histoire, finalement, vraisemblablement, presque aussi bien que les anglophones font l'histoire du contrôle américain sur le mouvement ouvrier international. Mais ça supposerait une conjoncture qui est irréalisable aujourd'hui. C'est-à-dire la capacité de faire de l'histoire sociale avec des archives. Or, des archives d'histoire sociale, c'est des archives de lutte des classes. Je donne à cet égard, vraiment, les gens qui ont sous la main industriels et banquiers, et là, c'est même pas la peine d'avoir la deuxième édition, parce qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux dans la deuxième édition, mais ça, c'était déjà dans la première édition. Il y a une discussion entre patrons de 42 sur la répression dans les entreprises, qui est un bonheur. Je ne sais plus d'où je la sors, celle-là, si elle est policière ou si elle doit être policière, qui est mais époustouflante, où ils discutent de savoir comment on peut casser des élections, comment on peut faire des élections bidons, comment il y en a un qui dit à un moment mais la cellule, machin, la cellule veut dire la cellule, une petite structure quoi. Et le grand patron de la métallurgie qui dit non, quand même pas le mot de cellule, enfin c'est. Mais c'est drôle, c'est bien drôle. En fait, c'est un document F1A. C'est l'administration générale. Alors il y a tout là-dedans. Dans F1, il y a tout. Il y a du policier, il y a du patronnel, il y a tout. Et c'est un document F1A qui est la transcription d'une discussion entre patron lorrain. On se dit, on met ça aujourd'hui dans la grande, enfin on soumet ça aujourd'hui à la grande presse. Elle vous explique que c'est conspirationniste, et parce que tout est conspirationniste, il conspire tout le temps. Il conspire tout le temps. Alors, en matière de conspiration, il faut bien dire quand même que les Américains ont été très forts. Et alors, on a beaucoup de choses chez nous. Parce que moi, dans ma thèse, j'avais déjà finalement montré, en même temps, et même avant Carew, moi, j'avais montré ce qu'était l'achat par l'émissaire de l'AFL, Irving Brown, le subordonné de Jane of Stone, comment l'AFL était venue pourrir le syndicalisme européen. Alors, je vais donner un exemple dans ma thèse, elle a été publiée en 85-86, mais c'est une thèse qui a été soutenue en 81, j'avais pas des archives différentes. Et pour qu'on se rende compte de ce que c'est que la diversité archivistique, bon, personne n'y penserait, c'est un rapport d'ambassadeur. C'est un rapport d'Henri Hopneau qui est ambassadeur de France à Berne. Un monsieur très bien, comme tous nos ambassadeurs d'ailleurs, d'origine bourgeoise, tout ça, qui a une magnifique collection, c'est la grande bourgeoisie. De toute façon, le Quai d'Orsay, c'est le fruit des jésuitières et de la grande bourgeoisie quand c'est pas l'aristocratie. Et donc, cet Hopneau, qui était quand même un esprit très indépendant, qui avait été gaulliste quand même avant un certain nombre de diplomates, hein, le vrai gaulliste, il n'y en avait qu'un, finalement, c'est celui qui avait démissionné le 17 juin 1940, mais il était pas mal quand même, Hopneau. Alors Hopneau, ça montre bien l'extraordinaire diversité. Ben, il envoie, parce que on sait très bien qu'une ambassade, c'est une agence de renseignement, il a un agent, je ne sais pas où, je ne sais pas d'où il sort, hein, c'est pas dans le courrier, et il raconte un voyage d'Irving Brown en fin 46, début 47 en Suisse. Alors c'est une période délicate d'ailleurs pour Brown, enfin délicate, pas trop, parce que les unitaires ont fini par se mettre en colère, et il y a en octobre 1946 un article dans La Vie ouvrière, c'est-à-dire le journal, l'ex-journal de tendance qui est devenu un journal très important de la CGT d'après-guerre, il y a un article de Frachon qui met le houla en octobre 46 en disant « Bon, ça commence à bien faire, hein. On sait que Irving Brown est en train de pourrir notre syndicalisme, il s'abouche avec des gens qui ont été exclus des syndicats, il pourrit notre syndicalisme. » C'est un coup d'arrêt. C'est un vrai coup d'arrêt d'ailleurs parce que il devait s'installer à Paris où il passait sa vie depuis septembre 45, où il était toujours fourré à l'ambassade des États-Unis en discussion avec l'ambassadeur Caffrey et le et le responsable, le labor attaché, l'attaché au mouvement ouvrier, Richard Eldridge, donc il devait mettre son centre international machin à Paris. Et là, avec la réaction des communistes, là, qui commencent à montrer les dents, il va fonder ça à Genève. Et il s'en va faire un petit voyage, de toute façon, ici en Europe. Hein. C'est à Paris qu'il est le mieux, parce que c'est quand même là qu'on vit le mieux, dans le luxe et le beau paysage, enfin le beau paysage urbain. Et donc, il se balade. Donc ça, c'est des documents, moi, que j'ai vus, on va dire, en 76-77. Ça fait belle lurette que mes collègues auraient pu les voir quand même. Bon. Et donc, mais c'est une caricature à un degré, puis alors tous les jours, le petit rapport là, alors Yopno qui raconte, voilà, là il est allé voir machin, en lui disant, un homme intelligent comme vous, mais c'est pas possible, pas de secrétaire, vous rendez compte, et puis il est en Suisse, hein, c'est-à-dire que c'est pas le niveau de la France où on n'a pas à bouffer, où il y a les cartes de rationnement, où vraiment les gens vivent très mal. Hein. Moi, j'ai fait une thèse qui montre à quel point la masse de la population, et en particulier la classe ouvrière, vit mal en 1945, 1944, 1947, comme avant. Bon. Et donc, il y a un premier gars, qui est un bon gars, qui les conduit, il en trouve un deuxième, corps de l'alimentation, et hop. Et il l'achète, c'est un vrai achat. Et alors, c'est amusant, parce que quand on voit les débats entre syndicalistes, et tout ça sort en 47, hein, c'est-à-dire qu'au moment où la scission est imminente, où tout le monde sait qu'elle est imminente, hein, de toute façon, quand Frachon, en 46, hausse le ton et dit « ça commence à bien faire, hein, Brown, de venir nous pourrir notre mouvement ouvrier », il sait très bien que ça dure depuis un an, il sait très bien que ça a été préparé avant, il dit, bon, ne prenez pas pour débailler des billes quand même. Bon. Et on se trouve là, donc, dans une situation où l'émissaire des États-Unis descend dans les plus grands palaces de Suisse, là à Berne, il est dans un des plus grands palaces, il dispose d'un argent, mais sans limite. Alors on est en 46, hein, il y a des rigolos qui vont dire « Mais non, la CIA n'existe pas !» Il y a même un collègue américain qui a quand même osé, je ne sais plus, dans les années 80, expliquer qu'il n'y avait plus de service de renseignement entre la suppression de l'OSS, l'Office of Strategic Services, à l'automne 45, et la création de la CIA en juillet 47. Bien entendu, il y a tous les services, avec les mêmes types. D'ailleurs, c'est bien simple. Moi, je prépare un autre bouquin sur le contrôle américain de notre histoire, enfin, sur le contrôle de la culture, où je vais finalement prolonger des tas de travaux anglo-saxons qui ont beaucoup, beaucoup avancé sur cette question, des documents, pour le coup, qui sont publics, qui montrent que, bien sûr, il n'y a aucune différence, enfin, qui sont publics, qui sont en tout cas consultables par le public, hein, il n'y a aucune différence entre ce qui se passe en 40, en 41, 42, en 43, en 44, voilà, et en 47, parce que ce que je montre, c'est que l'OPA sur le syndicalisme et sur le reste, bien entendu qu'elle est peaufinée pendant la guerre. Et on a des bouquins que personne ne connaît en France. Je pense à un bouquin qui doit dater de 87, qui est extraordinaire d'ailleurs, sur l'action de l'OSS, qui montre que tout le système de contrôle de la culture, de l'histoire, de ce qu'on appelle en particulier les area studies, c'est les études de zone, qui ont été implantés à Sciences Po après la Deuxième Guerre mondiale et qui ont tissé Sciences Po. Hein. Hein. On s'aperçoit, c'est très extrêmement intéressant, parce qu'on s'aperçoit que l'utilisation de la langue américaine, de la langue anglaise, devenue banale à Sciences Po, où maintenant des cours se font en anglais, c'est pas de maintenant qu'elle date, c'est pas de Macron, c'est de projets qui date des années 40. Et Winkle, dans son bouquin de 1987, sur l'OSS, il montre que tout l'appareil des Area Studies, qui est un appareil qui se confond avec la conquête des zones, les Area Studies, c'est les zones à conquérir. Alors, il y a tout, il y a l'Europe, de l'Ouest, de l'Est. De toute façon, les Américains, ils pensent qu'il n'y aura pas d'Europe de l'Est. D'ailleurs, Harriman, le grand financier et ambassadeur à Moscou de 1943-1946, l'a dit en mars 1944 à son département d'État, il a dit, on est tranquille, il n'y aura même pas de zone soviétique parce que on va leur proposer un prêt d'1 milliard de dollars, ils sont tellement HS qu'ils seront obligés d'accepter, et on n'aura même pas cette envie. Là, il s'est un peu planté, parce que les soviétiques étaient bien braves, mais quand même pas couillons à ce point. Donc, ils ont eu une zone pendant un certain temps. Et donc, les bouquins comme ceux de Winkle montrent que, non seulement tout l'appareil, donc j'ai dit Europe, Amérique latine, Afrique, tout, c'est très intéressant tout ça, parce que, à l'époque, tout ça, ça appartient pas du tout aux États-Unis, c'est les empires.
Ben oui.
Hein? Tout y est, tout. À partir de 42-43. Hein? Donc l'OSS est fondée en 41. Et qui va s'occuper de ça? Ben, les types de l'OSS, puisque de toute façon, ils passent à la CIA. Et donc, quand je dis une pieuvre, c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel secteur, il y a une antenne de la pieuvre. Le syndicalisme, le journalisme, les hommes politiques, tout, ils ont tout piqué. Les études de sciences sociales. Il fallait liquider le marxisme. Bon, voilà. Et les sous. Parce que ces types, c'est ce que montre d'ailleurs Hoffman, ils sont sans limite. Il n'y a pas de... D'ailleurs, c'est très drôle. J'en profitais pour parler d'un auteur que j'aime beaucoup, avec lequel on n'a pas été en correspondance. Ben si, on a été en correspondance en 2018, parce que en 2018, il m'a envoyé son dernier bouquin. C'est Anthony Caillou. Donc, il fait, dans les années 80, une série d'articles absolument passionnants sur la scission, sur la formation de la CISL, c'est-à-dire comment, à partir de 1944, le programme de l'AFL, de casse de l'AFSM, qui n'est même pas encore réalisé, pas fondé, hein, est fondé en 1945. Quel est le programme de l'AFL? Un programme, on casse tout, et puis on reconstitue avec les syndicats pourris, hein. Et ceux-là, ils ne se sont pas battus contre le nazisme. Les syndicats social-démocrates qui n'ont jamais levé le petit doigt contre le nazisme, de la Fédération syndicale internationale de l'entre-deux-guerres, structure locale et structure globale, ou structure par département, par métier et structure générale, avec lesquelles étaient en rapport Gompers d'abord, avant les successeurs à l'AFL, donc juste après la Première Guerre mondiale. Hein. Bon, alors, comment ces choses se font? Et il montre bien, c'est même passionnant d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il montre à quel point les Anglais, qui sont mignotés comme c'est pas possible par les soviétiques pour participer à la Fédération syndicale mondiale, parce que les soviétiques, ils veulent tout le monde, et là, pour faire ça d'ailleurs, ils sont prêts à toutes les concessions, c'est-à-dire que, de toute façon, la FSM, si on met les syndicats soviétiques, ils ont la majorité absolue. Hein. Tous les ouvriers sont syndiqués. Alors après, il y a les bonnes âmes qui nous disent, c'est des faux syndicats. Bah oui, il y a qu'à voir comment c'est les syndicats américains. Et donc, ils ont fait une pondération telle que le Trade Union Congress, le syndicat anglais, ait un rôle énorme, et ils ont même collé la présidence à ce très pourri de syndicalistes anglais. Donc ils ont tout, Hein, ils ont le chef des syndicats anglais qui est là, tout le monde est là. Et les Anglais sont bien embêtés. Parce que, bien sûr, qu'ils sont anti-soviétiques. Il suffit de lire le livre extraordinaire de Peter Weiler. Moi, je suis désespéré, d'ailleurs. Ce Peter Weiler, il a fait deux bouquins formidables sur le mouvement ouvrier anglais, un en 88, je crois, dont j'ai rendu compte, là, il est dans le prochain livre, extraordinaire. Hein. C'est vraiment... on voit ce que c'est qu'une histoire... une histoire sérieuse, quoi. Il montre comment... Il montre ce que montre Engels, hein, c'est-à-dire comment le labor est pourri par le patronat, par les Américains, etc. Et alors il montre comment on évince l'ensemble des syndicalistes actifs, et alors il montre déjà, donc on est dans les années 80, en particulier l'application que les Anglais, avec la complicité du labor, on mise à liquider le syndicalisme colonial. C'était un enjeu terrible, le syndicalisme colonial. Et donc, Weiler, il fait un bouquin passionnant sur le syndicalisme britannique, passionnant, où il montre, et il fait des articles dans lesquels il montre également ce qu'est l'organisation de la scission, comme au même moment, hein, comme Carew. Et puis après, il fait une biographie sur Bevin. C'est-à-dire un ancien syndicaliste, le syndicaliste, un des plus grands syndicalistes anglais du secteur administratif, des transports, etc., qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Évidemment, avec strictement le même appareil que du temps des Tories, du temps des conservateurs, et aussi Réac. Et d'un anticommunisme à couper au couteau, de toute façon, il a été anticommuniste toute sa carrière pour une raison très simple. Pas parce qu'il y a un parti communiste très fort en Angleterre, parce qu'être anticommuniste, c'est être contre les lutteurs. Hein. Donc il faut que les ouvriers se tiennent tranquilles, on est les communistes. Bon. Et donc, il fait deux bouquins, et puis je sais pas ce qui lui est arrivé, il a arrêté. Il a arrêté, ou alors, il fait plus l'histoire. Alors mon Carew, lui, il fait de l'histoire. Mais il fait de l'histoire, de tonalité de plus en plus occidentale, mais quand même très chouette. Donc en 2018, il m'envoie très gentiment son dernier bouquin. Il en a fait en 87. Le suivant, c'est 2018. Et c'est un type qui bosse, hein. Parce qu'entre-temps, il a fait plein d'articles. On s'échangeait d'ailleurs nos articles, nos travaux, tout ça. Et il m'envoie ça. Il me dit, Annie, est-ce que vous voulez bien regarder tout ça? Je regarde. D'ailleurs, j'ai fait une critique dans mon diplôme. Alors, je m'aperçois qu'il est bien plus occidental que naguère. Mais c'est accablant, mais à un degré qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a l'impression d'avoir le prix de chaque type. Par exemple, la Norvège, comment la Norvège passe à la scission internationale? Eh bien, ils trouvent un micmac pour payer des voitures. C'est-à-dire que les voitures, ça permet, après, avec le cours du dollar de l'époque. Mais c'était des billets. On savait même, c'est bien simple, on voit d'ailleurs, parce que Carew, il a beaucoup utilisé les archives de Jay Lovestone, qui était le patron théorique de Brown, et on y comprend que l'argent mais coulait à flot à un degré tel qu'à chaque fois qu'on demandait à Brown un petit état quand même de ce qu'il dépensait, il disait, mais je peux pas, et alors... Alors, c'est vrai pour tous les pays, l'Italie, c'est grandiose. Mais je ne dis pas ça du tout pour accabler nos amis italiens. Hein. Je veux dire, bon, en Italie, ils ont fait vraiment en Italie comme ils voulaient. Mais je veux dire, c'est tellement caricatural, mais on ne peut même pas dire que c'est pire chez les Italiens. Le livre de Carew, par exemple, montre la dépendance de FO. Mais c'est horrible, horrible, horrible. C'est-à-dire que c'est ça qui est drôle, c'est que tous les stipendiers rigolaient de ce stipendier qui était encore plus stipendier que les autres, parce qu'au moins, ils avaient des effectifs. Hein, en Allemagne du Nord, en Angleterre, en Europe du Nord, en Angleterre, ils avaient des effectifs qui n'étaient pas bidons. Tandis que FO avait des effectifs complètement bidons. C'est-à-dire que théoriquement, il lui accordait 1 million d'adhérents, mais il n'y en avait pas 1 million. Et donc, on voit la feu, on voit pas trop, mais des pontins. Alors mon Caillou, il est tout content, le syndicalisme démocratique, tout ça, mais il décrit un paysage d'apocalypse. Et il décrit ça jusqu'en 70. Et alors, comme il ne fait plus d'analyse économique, il n'en faisait pas beaucoup avant, mais là, il n'en fait plus du tout. Il y a un truc qu'il laisse percevoir dans tout son bouquin, mais qu'il aborde jamais. En fait, les Anglais et les Américains, ils ne peuvent pas s'entendre, bien qu'ils s'entendent. Parce que l'objectif, c'est effectivement la conquête des empires. Et Brown, il a joué dans la conquête des empires un rôle déterminant, c'est-à-dire qu'il a fondé le syndicalisme colonial, qui n'allait plus être colonial. Moi, je l'ai montré dans un bouquin parfaitement inconnu, qui m'avait d'ailleurs, qui est chez l'Armatan, qui m'a jamais dit combien il en a vendu, sur les protectorats d'Afrique du Nord, où je montre comment Brown s'occupe du syndicalisme tunisien, s'occupe du syndicalisme marocain, dans des conditions d'ailleurs très délicates, parce que les faux, c'est le stipendier de Washington, mais c'est le stipendier du colon français. Alors ça a donné, avec des types comme Bouzanquet par exemple, qui était le chef du syndicalisme tunisien et faux, ça a donné des scènes et des lieux à des contradictions, mais épiques. Hein, parce que fallait gérer simultanément le fait d'être larbin des uns, larbin des autres. C'est-à-dire que l'État français, il était bien extrêmement dépendant des États-Unis, mais n'était pas si pressé de lâcher les colonies, comme chacun sait. Et donc, ce que montre très bien Caillou, mais qui ne creuse pas, c'est que là, il y a un butoir terrible entre les Anglais et les Américains, parce que les Américains, ils ont boulotté l'Empire britannique. Et l'Empire britannique, qui s'est fait barboter l'Inde et toute la clique, faut le voir se battre comme un chien au Kenya. Et il faut voir comment Brown pourrit le syndicalisme kényan. Mais c'est très intéressant, cette étude globale. Parce que je dirais que ça dégoûte de toute approche raciste. On n'aurait que l'étude du syndicalisme pourri colonial. On se dirait, oh là 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 là, comme on rigole sur les rois nègres. Mais les nos rois blancs, ils sont pareils. C'est un paysage d'apocalypse. C'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup d'éléments. Finalement, ce qui nous manque le plus, c'est la capacité de faire cette histoire, parce que cette histoire est une historia non grata.
Qui dérange,
et qui est de fait interdite. La classe ouvrière avec Xavier Vignat, qui déteste l'organisation et qui hurle aux méchants soviets, c'est bien, mais l'autre classe ouvrière, soit qui se bat pour les patrons en prétendant servir les ouvriers, ça, c'est tabou.
Puisqu'on a toujours la possibilité de faire basculer les dirigeants d'un côté à l'autre,
et oui,
se battre à ceux qui se
battent. Et oui,
c'est
l'histoire de Doriot.
C'est,
hein,
ça le boulot. Oui, c'est ça.
Doriot a été certainement un très grand et un très bon militant.
Voilà.
Et puis, il s'est fait acheter.
Et voilà, c'est là.
Et en fait, le rapport des syndicalistes avec le patronat, c'est la réalité de ce rapport-là.
Exactement.
Ou tu me résistes et je t'écrase.
Où tu viens à la soupe.
Où tu viens là, mais enfin, un type aussi indélisant que vous,
ben voilà,
bloqué toute sa vie, toute sa carrière. Ce sont des héros. Ce sont des héros, nos militants syndicaux à la fraction.
Bien sûr, tout à fait. C'est pas assez nombreux.
Et on comprend, quand on a lu le Caillou de 2018, que notre syndicalisme européen, c'est la généralisation de ça, et on comprend très bien que quand un syndicat combatif, ou qu'il était encore avant d'y adhérer, y adhère, c'en est terminé. C'est ce qui s'est produit avec la direction de la CGT entre la fin des années 90, où la discussion a été porté sur cette fameuse adhésion à la Confédération européenne des syndicats et la décision 2000 qui a donné une direction de la CGT telle qu'elle existe aujourd'hui et telle que dans la crise elle est confrontée et va être confrontée aux mêmes problèmes que ceux qui se sont posés dans les années 30 et 40. C'est-à-dire le problème d'un hiatus tellement fort entre le sort de la masse des salariés et leurs dirigeants que un degré donné de la crise s'apaîtra parce que c'est impossible autrement.
Nous y sommes. Merci Annie pour cette conclusion.
Merci pour la visite.
Le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.